Certains ont eu besoin du ralenti, j'ai remarqué, pour remarquer qu'il avait tiré haute les jambes. Puis ce qui vous a le plus fait rire, c'est la réaction de Djokovic. Ça, on voit que vous êtes un peu chauve, hein, quand même. Donc, c'est une vidéo que j'ai choisie pour illustrer un peu ce qu'on va méditer ce matin. Parce qu'on va parler de talent, puis avoir du talent. Puis c'est vrai que quand je pense à quelqu'un qui a du talent, c'est tout de suite à Roger que je pense. Parce que ben vous avez vu, il réussit des trucs incroyables. Il a une facilité déconcertante. Puis on est tous, en tout cas moi, un peu en admiration devant lui. Surtout que le tennis, c'était mon premier sport. Donc j'ai tapé des heures et des heures contre la porte de garage de mes parents. Si bien qu'elle a cassé. Non, c'est... Mais toujours est-il que voilà, ça m'inspire pas mal. Et puis c'est vrai qu'il a un talent phénoménal. Mais je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais à la fin de la vidéo, il y a un court extrait de l'interview, ça va très vite, c'est en anglais en plus. Mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que la journaliste lui demande « Mais vous avez l'habitude de réussir ce genre de coup extraordinaire ?» Puis Roger, après ça, t'attends à ce qu'il dise ben oui, avec le talent que j'ai, bien évidemment, sans problème, je claque des doigts et ça se passe. » Puis en fait, qu'est-ce qu'il dit ?« Non, je l'essaye souvent à l'entraînement, ça marche quasiment jamais, mais... ce que j'ai envie toujours, c'est d'essayer. » Puis s'il n'avait pas essayé à ce moment-là, bon, on n'aurait jamais pu voir cette vidéo ce matin. Et puis, c'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant ce matin, c'est de dire que même avec tout le talent qu'il a, Roger, s'il n'avait pas essayé, eh ben, il n'aurait jamais réussi ce coup. Puis ce coup, il l'a réussi, je ne sais pas si vous avez vu un peu le score, vous avez pu voir en bas à droite, mais c'est en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, ça lui donne une balle de match, et puis il peut aller en finale sur le coup suivant. C'est ce qui va se passer. Donc il essaye, même dans un moment d'extrême tension, il aurait pu avoir les chocottes, et puis non, il essaye et il y va. Puis le message que j'ai envie de vous transmettre ce matin, si vous devez retenir qu'une chose, c'est que pour Dieu, nous avons du talent, et puis je provoque un petit peu, même plus que Roger, on va essayer de voir pourquoi, mais on a autant de talent, voire même plus que Roger, et ce qu'on a à faire, c'est à l'utiliser. Ce n'est pas à se dire, est-ce que je vais le faire, squat les jambes, oui, non, il ne se pose pas la question, il y va, et puis il essaye même à un moment hyper chaud du match. Et pour nous, c'est vraiment le message, Dieu considère que nous avons tous du talent, et même plus que Roger. Et puis la deuxième question, ou la première question qu'on peut se poser par rapport à cela, c'est qu'est-ce que je fais de ce regard de confiance que Dieu porte sur moi? Qu'est-ce que je fais de ce regard d'amour, de confiance que Dieu porte sur moi par rapport au talent et au don qu'il m'a donné? Alors c'est un peu ce qui se passe dans une parabole, dans une histoire que Jésus raconte à ses disciples, et puis à la foule. C'est l'histoire d'un maître de maison, un boss quoi, un patron, qui part on ne sait où, ni pour combien de temps, et qui laisse les clés de sa boîte à ses trois employés. La seule chose qu'ils savent, ces trois employés, c'est que ce maître de maison, le boss, il va revenir une fois. Ils ne savent absolument pas quand, ils ne savent absolument pas ce qu'il va faire, mais ils savent qu'il va revenir une fois. Nous, on est exactement dans la même situation, on ne sait pas quand ni comment, mais on sait qu'il va revenir une fois, notre maître. Et avant de partir, ce maître, qu'est-ce qu'il fait? Il confie à chacun une part différente des richesses de l'entreprise ou de la maison, à chacun selon ses capacités. Ainsi, le premier homme, il reçoit 5 parts ou 5 talents, le deuxième, il reçoit 2 parts ou 2 talents, et le dernier, 1 part. Donc, elles sont données en fonction des capacités de chacun, tout le monde est content, et le maître de maison s'en va. Sitôt après qu'il ait tourné les talons, le premier homme, il s'en va aussi. Il bouge, il se met en mouvement, il ne reste pas sur place et il fait fructifier, terme clé, il fait fructifier ce que le maître lui a donné. Deuxième homme, idem, il fait exactement la même chose, il part, il s'en va, il bouge et il fait fructifier ce que le maître lui a donné. Le troisième, quant à lui, il agit différemment. Il joue quoi ? Il joue la prudence. Il reste sur ses gardes. C'est un peu l'homme qui dirait « on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent ». Ce qui lui a été confié, pour lui, c'est clair, ça doit être protégé. Donc quand on protège quelque chose, on va au fond de son jardin, on creuse un trou et on enterre le talent que le maître lui a donné. aussitôt dit, aussitôt fait. Là, il est assez rapide. Il l'enterre comme ça, il se sent en sécurité. Le texte nous dit ensuite que bien longtemps plus tard, donc pas quelques jours après, bien longtemps plus tard, le maître de maison retrouve ces trois hommes. Effectivement, il a tenu parole. Et qui plus est, il se souvient du deal qu'il a passé avec eux lors de son départ. Et, le plus logiquement du monde, il procède au compte. Il amène chacun vers lui. Or, s'avance en premier celui qui a le plus reçu, les 5 talents. Il lui présente le résultat des courses, 5 talents supplémentaires. Le maître le félicite exactement de la même manière qu'il félicitera le deuxième. Il le félicite d'une manière suivante, il lui dit « Tu es apte à veiller sur bien plus de biens car tu as été fidèle dans les petites choses. » Et deuxième chose dans la félicitation, il l'invite à rejoindre sa maison pour toujours. Le deuxième homme s'avance de nouveau vers le maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui présente aussi le résultat des gains, 2 talents supplémentaires. Et le maître le félicite en lui disant « Tu as été fidèle pour des petites choses, il te sera confié de plus grande. » Et il peut aussi jouir de la joie de son maître. S'avance alors le troisième homme, celui qui a soigneusement planqué son talent. Alors, il ne commence pas par présenter son maigre talent au maître, mais il commence par faire l'éloge de celui-ci. Il le flatte, il vante sa force, sa sévérité. Encore une fois, on ne le sent pas très sûr de lui. Et le maître, malheureusement, loin de se laisser envoûter, la technique ne marche pas par ses louanges, le maître le place face à ses propres incohérences. Si tu connaissais si bien ma nature de sévérité, pourquoi est-ce que tu n'as pas bougé? Pourquoi est-ce que tu n'as rien fait? Il lui a même conseillé d'aller plutôt placer son talent dans les banques parce qu'il aurait au moins rapporté un petit quelque chose. Alors le jugement tombe. Le maître prend l'unique talent de ce serviteur et le donne à celui qui en a le plus. Et le serviteur créatif est renvoyé. C'est vrai que le jugement est dur, on va y revenir, savoir comment est-ce qu'on peut comprendre cette parole de jugement qui est dure. Vous avez, pour ceux qui le connaissent, peut-être reconnu un texte des évangiles qui se trouve dans l'évangile de Matthieu 25, qui s'appelle la parabole des talents. Je l'ai un peu refaite à ma sauce, mais en reprenant quasiment mot pour mot le texte de l'évangile. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'attarde maintenant sur qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous vivons cette attente dans le retour de Jésus. C'est exactement la même chose qui se passe ici, puisque les 10, ces 3 serviteurs sont dans l'attente du retour du Maître. Est-ce qu'on attend vraiment son retour? C'est les questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'on est vraiment dans les starting blocks? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Ce qui est sûr, c'est que les 3, autant les 2 premiers que le 3e serviteur, ils ont foi dans le fait que le maître va revenir. Ça, c'est la certitude qu'on peut avoir. C'est vraiment la base de compréhension de toute cette parabole. On est dans ce temps d'attente. On est dans ce temps d'attente, comme nous encore, on est dans ce temps d'attente. Puis là, je trouve que la parole, puis qui se retrouve aussi dans la parabole qui précède, celle des 10 vierges, où Matthieu insiste sur le fait que le retour peut attendre bien longtemps, ça nous rassure un peu, parce que nous, ça fait quand même bien longtemps qu'on attend le retour de Jésus, plus de 2000 ans. Bien longtemps, on pourrait dire, allez, on bâche, on abandonne, on n'a plus aucune chance qu'il revienne. Ben non, aucun des 3 hommes n'a considéré qu'il allait parvenir. Et je pense que c'est aussi ce qu'on peut nous retenir. Et pendant ce temps, on est appelé à être là, sur cette terre, à avoir la jouissance des talents et des dons que Dieu nous a donnés. Alors juste pour comprendre une parabole, il faut quand même avoir quelques petites clés de compréhension, parce que sinon on se mêle les pinceaux, mais c'est déjà des clés de compréhension que vous avez, je pense, devinées par rapport à ce début de prédication. Le maître, c'est Dieu, ses serviteurs, c'est nous, ses disciples, son église, et les talents, peut-être plus intéressants, c'est vraiment des dons de Dieu. Dieu nous donne ce qu'il a de meilleur de sa part. Alors, on peut le comprendre vraiment dans 2 sens, ça ne sert à rien d'opposer l'un et l'autre. On peut le comprendre autant comme les dons naturels, parce que Dieu, c'est notre créateur, donc il nous a donné à toutes et à tous des dons, chacun différent, chacun de manière unique, mais c'est aussi les dons spéciaux de l'Esprit ou de la grâce de Dieu. Il y a vraiment les deux qui se rejoignent. Et nous sommes tous ces dons appelés à les utiliser. Et puis c'est intéressant de aussi constater, juste pour la petite anecdote, que le mot « talent » dans la langue française, il vient précisément de cette parabole. Donc quand on dit que Roger, il a du talent, il y a un petit côté qui nous vient de cette parabole de Matthieu 25. C'est ce sens figuré pour dire non seulement il y a peut-être quelque chose qu'on reçoit, mais qu'on peut ensuite exprimer de manière unique. Et puis, on le voit, on n'est pas tous égaux face à ces talents. On ne reçoit pas tous la même quantité, mais ça ne pose strictement aucun problème. Le sens de la parabole, ce n'est pas de dire celui qui a un, deux ou cinq, lequel est le meilleur. Le sens de la parabole, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est ça le sens unique. Puis, dans une société capitaliste où le but, c'est d'accumuler le plus possible, on a de la peine à le comprendre, ça. Mais ce qui compte, c'est de faire fructifier ce qu'on a, pas d'en avoir le plus possible. C'est complètement différent. Talents, donc, ce sont ces dons que Dieu nous donne et qu'il nous demande de faire fructifier. Alors, on l'a vu, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure concerne les deux premiers hommes. On le voit, ils ont 5 au départ et ils en ont 10. Ils en ont 2 au départ, ils en ont 4 à la fin. Comme je dis, le total n'a que peu d'importance. Et puis là, on peut reprendre l'exemple de Roger dans le sens qu'il a confiance dans ses capacités et parce qu'il a confiance dans ses capacités, il les met en œuvre. Est-ce qu'on a confiance dans les capacités que Dieu nous a données? Est-ce qu'on a confiance dans les talents que Dieu nous a donnés en dépôt dans notre cœur pour qu'on puisse les faire fructifier? Les deux premiers, on sent très bien que ce temps d'attente pour eux n'est pas un temps où ils se posent 1000 questions, où ils se tarabinent l'esprit, où ils se demandent vraiment ce qu'ils vont faire. Ce temps d'attente pour eux, c'est un temps d'action. C'est un temps où ils se bougent, où ils partent, où ils vont de l'avant pour faire fructifier ce qui leur est donné. Ils ne sont pas dans l'attente du royaume des cieux qui est là seulement pour le futur. Ils vivent le moment présent. Puis une petite anecdote assez intéressante, parce que je suis allé voir monsieur le syndic pour me présenter. Il m'a lancé une petite remarque, puis il m'a dit mais vous les chrétiens, vous croyez quand même que vous avez quelque chose à faire ici, puis pas que tout va se réaliser dans le futur. Et puis ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, mais peut-être que, en tout cas lui, c'est peut-être l'impression qu'il pouvait avoir, de se dire qu'on vit ici dans l'attente, on fait un peu le rondeau, puis on attend que tout soit merveilleux à la fin des temps. Je crois que cette parabole ne nous dit pas cela, et nous encourage vraiment, précisément pendant ce temps d'attente, à être actifs et à nous bouger. Faire fructifier, c'est pas égal à exploiter. Puis là, on revient par rapport à notre contexte capitaliste où, quand on fait fructifier, comme on en a le plus possible, ce qui compte, c'est d'en exploiter aussi le plus possible. Ce n'est pas le résultat qui compte dans le fait de faire fructifier. Ce n'est pas le fait d'en amasser le plus possible qui est reconnu par le maître, mais le fait d'être en action. J'en veux pour preuve la phrase identique qu'il prononce quand il reçoit les deux hommes. Pour chacun qu'il ait gagné 2 talents supplémentaires ou 5 talents supplémentaires, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en donnerai de plus grandes. Pour les deux, il a exactement la même phrase. Donc c'est vraiment un encouragement fort pour nous, cette parabole, à nous tous qui dans cette église, et dans l'église au sens large, nous qui nous mettons en marche et qui nous bougeons pour le royaume et qui servons, qui essayons de servir le royaume de la meilleure des manières. C'est vraiment un encouragement de se dire que par notre service, par notre manière d'être, on est dans le juste, on est dans ce que Dieu nous demande de faire. Et puis je crois qu'on peut le dire aussi que souvent on est dans le juste aussi dans notre église. Puis juste un petit exemple, cette semaine, il y a encore quelqu'un qui me disait qu'il avait été accueilli dans notre église de manière extraordinaire, qu'il avait ressenti un amour qu'il n'a pas ressenti ailleurs. Mais on se dit, là, on est au service de Dieu, et puis on porte du fruit, on fait fructifier cet amour que Dieu a mis dans nos cœurs on peut le transmettre à d'autres. C'est ça un peu la vision qu'on s'est donnée, c'est un sens pour partager l'amour de Christ avec chacun. C'est vraiment ce dépôt qui est dans notre cœur, on ne le laisse pas pour nous enfoui, on le partage à chacun. Puis ce petit témoignage tout simple, hein, ressort comme ça naturellement d'une vie d'église où on sent qu'on peut mettre nos dons en valeur et nos dons en partage, on les fait circuler, on ne les garde pas seulement pour nous. Et je crois qu'on peut le dire avec d'autant plus de liberté, c'est justement pas pour nous lancer des fleurs ou bien croire qu'on est meilleur que les autres, parce que à l'instar des serviteurs, et ça c'est une autre pointe de la parabole que je trouve très intéressante, à l'instar des serviteurs qui sont là, si on peut dire qu'on a obtenu plus de fruits ou qu'on a fait fructifier les dons, c'est parce qu'on sait pertinemment et de manière profondément ancrée que ces dons, ils vont retourner au maître. Il n'y a aucun des serviteurs qui garde ses lingots que pour lui. Aucun. Qu'est-ce qu'ils font dès que le maître revient? Ils accourent vers lui, ils leur présentent et ils donnent au pied du maître ce qu'ils ont fait fructifier. Mais pour nous, c'est notre seule manière de dire qu'on fait fructifier quelque chose, peut-être dans notre église, dans nos attitudes, parce qu'on sait pertinemment et profondément que tout ce qu'on fait fructifier, c'est pour l'apporter à nouveau au pied du maître. Sinon, ça ne nous sert à rien de nous mettre en avant, c'est juste de la fierté, de l'orgueil inutile. Mais si on est profondément conscient de cette réalité, on peut poser un regard sur ce qu'on fait, on peut regarder ce qui a été fructifié dans nos vies ou pas. Donc, ça veut dire aussi qu'on est en cohésion les uns avec les autres dans l'Église, mais surtout en cohésion intime avec Dieu. Il n'y a plus « c'est Dieu qui fait ci, moi qui fais ça », on n'est plus dans cette comptabilité, on est vraiment dans une manière de travailler pleinement main dans la main. Et puis, c'est quand même extraordinaire de se dire, Dieu nous fait confiance jusqu'à ce point-là. Il nous fait confiance jusqu'à dire, mais je te confie tous les biens de ma maison. Il ne dit pas, j'en garde une partie pour moi quand il part. Hein. Il dit, je vous remets l'entier de ma maison et moi, je pars. Puis il n'a pas mandaté 15 000 contrôleurs pour regarder si on va être audité tous les 30 secondes pour regarder ce qui ne va pas ou ce qui va bien. Il nous fait entièrement confiance et lui, il s'en va. Pleinement confiance. On travaille main dans la main avec Dieu et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il revienne. Le troisième homme maintenant. C'est marrant, hein, Homer, là. Le troisième homme, lui, il a peur. Puis cette image de Homer, ça m'a aussi fait penser, parce que je pense que je suis le seul qui regardait la Ligue des Champions hier soir. On les voit s'avancer, parce que ça s'est décidé au pénalty pour tous ceux qui n'ont pas regardé. Et puis, c'est toujours assez spécial comme exercice, ces pénaltys, parce qu'ils sont dans le rang central. Et puis, il y a un joueur de vos 70 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs qui s'avancent, puis il est seul au monde, là. Il s'avance, il fait 30 mètres, et puis il va poser sa balle, il regarde le gardien dans les yeux ou pas, ça dépend, et il est amené à tirer ce pénalty qui va soit donner la victoire à son équipe, soit la faire chuter, et puis il va se faire vilipender. Non, il y en a un en tout cas qui n'a pas forcément très bien dormi hier soir, je pense. Mais vous imaginez si il réagit comme Homer, le gars qui va tirer son pénalty? Ça ne va pas, c'est inconcevable. Il y a une mission qu'il lui a donnée, il est confiant dans ses capacités, sinon il ne se serait pas proposé à l'entraîneur, parce que c'est seulement sur proposition qu'on va s'avancer pour tirer les pénaltys. Et il fonce vers son but. Il ne va pas se planquer dans les buissons. En tout cas, on ne l'a encore jamais vu. Il n'a pas peur parce qu'il a confiance dans ses capacités. C'est tout le contraire de ce que fait ce troisième homme. Le troisième homme, il fait peur. Pas ça, il joue la sécurité. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et la peur, c'est bien connu, est toujours mauvaise conseillère. C'est un bon proverbe, ça. Si nous avons peur de ce que peut être la réaction du maître, si nous avons peur du retour de Jésus, si nous avons peur par rapport à ce qui nous est demandé, et ça arrive, on est clairement sur une fausse voie. Le texte est assez radical quand même. Hein. Je ne connais pas cet homme. même si les caractéristiques données par le troisième homme à propos de Dieu sont justes, qu'il est sévère, qu'il récolte là où il n'a pas semé, et tout, donc il se fait une image pas complètement fausse de Dieu, mais pas complètement juste de Dieu. Qu'est-ce qu'il oublie, ce troisième homme ? Il oublie que ce Dieu sévère lui fait entière confiance, et que ce Dieu sévère ne va pas jouer sur la corde de la peur pour le mettre en action, mais il va jouer sur la corde de la confiance. Et ça change tout. Peut-être pendant des siècles, l'Église d'Occident a joué sur la peur pour mobiliser les gens, mais c'était une erreur capitale. Il joue sur la confiance qu'il lui a donnée, il sait quelle est sa valeur, il sait ce qu'il a payé pour lui, et puis de le voir ne rien faire, ça le trouble fondamentalement. Alors par rapport à la peur, on peut dire plein de choses. Puis le premier conseil qu'on me donne toujours quand je croise un chien, parce que j'aime pas beaucoup les chiens, Corinne le sait comme ça, parce que j'ai de mauvaises expériences quand j'étais petit, j'habitais à côté d'une ferme, et puis c'était pas les chiens très très sympas. Et puis chaque fois qu'il y a un chien, puis qu'il vient vers moi, qui monte les dents là, qui retrousse les babines, qu'est-ce qu'on me dit souvent ? Faut pas avoir peur. Alors là, je remercie toujours le maître pour son conseil d'une sagesse extraordinaire. Là, c'est bien clair, quoi. J'ai pas peur. Non, non, ça, c'est, je transpire, mais j'ai pas peur. Mais faut pas. Ah ben là, je reste les bras ballants. Donc le conseil que je pourrais vous donner ce matin, simplement qu'avec Dieu, faut pas avoir peur. Vous avez bien compris, il vaut pas grand chose. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est quelle est notre image de Dieu. Ça, c'est la question, je pense, principale que l'on peut se poser à la lecture de ce texte. Quelle est l'image qu'on a de Dieu ? Est-ce que c'est un père fouettard, sévère, et puis qui nous crispe tellement qu'on ne sait plus quoi faire ? Ou est-ce que c'est un père aimant qui a donné son fils sur la croix, et puis qui nous a donné son esprit pour être actif dans ce monde ? Quelle est notre image du Père ? Il y a plusieurs types de peur. Mais il y en a vraiment une qui semble se dégager ici pour l'homme qui enterre son talent. C'est la peur de mal faire. La peur de faire faux. La peur de ne pas être à la hauteur. Toutes des peurs qu'on ne connaît pas, hein, bien sûr. Qui me paraissent très éloignées de ce qu'on fait. En vantant la force du maître, ce troisième homme, ses qualités, il en a oublié le regard qu'il porte sur lui. Ouais, sur lui, comme sur moi. Il a oublié qu'il avait de la valeur aux yeux du maître, que ce dernier est parti en lui laissant le soin de s'occuper de ses affaires pendant son absence. Il s'est oublié lui-même en oubliant le regard positif de Dieu sur lui. Et quand on y réfléchit bien, c'est tragique ce qui se passe pour cet homme. C'est tragique parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'après moi, pour décrire sa situation. Il avait tout en main, et en raison d'une perception erronée, il prend la mauvaise décision. Il y a quelque chose de tragique. Il s'est forgé une image complètement faussée de Dieu, et là, c'est aussi tragique. Pour comprendre le jugement qui tombe sur lui, j'ai découvert cette phrase dans mes lectures en préparant ce message, puis je trouve qu'elle est assez forte pour comprendre la réalité du jugement. Est-ce que Dieu, à la fin, le maître de maison se transformait tout à coup un peu en un épicier cynique qui fait ses comptes, puis qui regarde toi 5, toi 2, toi 1, pas bien, bien, et puis qui fait ça un peu à la va-vite. Non, je crois pas, c'est plus profond que ça. Mais pour lui, aimer un homme, c'est vraiment espérer en lui. Si on enterre notre talent, si on fait faux bond à cette espérance et à cet amour qui nous est donné, je pense que la déception, effectivement, elle peut être grande de l'autre côté. Il aurait donné sa vie pour nous, pour que nous restions les bras croisés, tremblant de peur. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Soyons sérieux, soyons confiants dans nos capacités. Et j'ai un peu cette prière que nous puissions être libérés de cette crainte de ne pas être à la hauteur. Libérés de cette crainte de me dire « je vais faire faux ». Libérés de cette crainte de me dire « mais est-ce que je vais être aussi bon que Roger ? Sinon, je ne fais rien du tout ». On a vraiment maintenant cette tentation avec l'accent sur les médias où on regarde que ceux qui sont vraiment au top du top. On regarde tous la Ligue des Champions, puis après si on joue au foot, on se dit « oups, punaise, c'est pas brillant. J'ai encore du chemin à faire. Mais c'est une, pour moi, je pense qu'il y a un mécanisme assez fort qui se dit là, ça nous démobilise un peu. Parce qu'on se donne des objectifs trop hauts. N'oublions pas qu'il donne des dons à chacun et à chacun selon ses capacités. Et ensuite, c'est à nous de jouer et puis d'aller avec qui on est, avec ce que Dieu nous a donné. Rien de plus, rien de moins. Seigneur, libère-nous de cette crainte de ne pas être à la hauteur. Libère-nous de cette crainte d'avoir peur de faire faux, d'avoir peur de ne pas faire ta volonté. Quelques mots encore quand même, parce que la fin du chapitre est magnifique, cette fin du chapitre de Matthieu 25, puis elle est en lien direct avec cette parabole des talents. C'est comme un instantané du jugement où Dieu sépare les boucs et les chèvres et puis il prononce certaines paroles sur ces deux catégories de personnes. Et puis je pense que ce qu'il dit à ce moment-là, ça peut déterminer et puis donner le sens des actions qui nous sont demandées par cette parabole des talents. On nous dit qu'il nous faut nous bouger, on nous dit qu'il nous faut être en action, aller dans cette direction qui nous est donnée par Dieu. Oui, mais quoi ? Et puis je pense que la fin du chapitre 25, avec cette parabole des boucs et des chèvres lors du jugement dernier, nous donne des bonnes pistes. Et puis là, je vous donne juste la partie positive de ce qu'il dit aux personnes qui ont fait sa volonté, qui ont mis en œuvre, qui ont fait fructifier ce qu'il avait déposé dans leur cœur. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume de Dieu que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Il y a encore plein d'autres choses à faire, mais dans ce contexte de Matthieu 25, je pense que le sens de nos actions, c'est assez clairement là qu'il regarde. Cette parabole des talents qui précède immédiatement ce texte sur le jugement dernier, c'est évident qu'il faut les lire ensemble. C'est évident que ces deux textes qui vont ensemble. On n'est pas là en train de méditer la parabole des talents pour savoir comment être un meilleur économiste, mais on est là pour voir comment ces dons que Dieu nous a donnés, on peut les faire fructifier et dans quelle direction. Et ça, je pense qu'on le trouve assez clairement dans cette dernière parabole de Matthieu 25, qui clôt tous les discours de Jésus. C'est la conclusion de tous ces discours dans l'évangile de Matthieu. Ensuite, on a le récit de la passion. Tous ces éléments, là où c'est placé, c'est jamais anodin. Il y a une forme de conclusion, comme une forme de testament de ce que Dieu, à travers la bouche de Jésus, nous donne. Alors, en conclusion, c'est assez simple. C'est vraiment de nous appeler à l'action confiante. De se dire comment est-ce qu'on répond à cette question, qu'est-ce qu'on fait pendant notre attente de Jésus, de son retour, qui peut durer bien longtemps, eh bien, on se met en action. On n'a pas peur de faire faux, on n'a pas peur d'être à côté de la plaque, mais on y va. On y va conscient de ce que Dieu nous a donné et des dons qui sont en chacun de nous. Conscient de notre valeur aux yeux de Dieu et conscient que Dieu nous a confié une mission, il nous a confié les clés de la maison. Amen.